Introduction. Nous pensons en mots. Nous parlons avec des mots. Dans le silence de notre esprit, nous entendons les paroles ou les messages de nos pensées subconscientes qui se répètent à la vitesse vertigineuse de 60 000 à 80 000 fois par jour, selon les estimations scientifiques. De nouvelles preuves suggèrent que le pouvoir de nos paroles s'étend bien au-delà de ce que les statistiques ont révélé dans le passé. Des études récentes confirment une théorie proposée au début du XXe siècle, à savoir que notre vocabulaire quotidien influence directement la manière dont notre cerveau se configure en ce qui a trait à notre façon de penser et même au contenu de nos pensées. La découverte. Eh bien, la découverte de la relation entre les mots et le cerveau ne découle pas d'une recherche bien coordonnée dans un laboratoire de pointe, dans le but de trouver un lien à consonance mystique. C'est plutôt le résultat d'une prise de conscience inattendue qui a surgi d'une tâche imprévue d'un enseignant entre 1937 et 1938. À l'époque, le linguiste américain Benjamin Lee Roth se retrouva suppléant devant une classe du cycle d'études supérieures en linguistique amérindienne. Remplaçant un collègue qui prenait une année sabbatique, Worf reconnut une nuance auparavant négligée dans la langue des Hopis d'Amérique du Nord. Ses locuteurs décrivent les événements de la vie quotidienne sans tenir compte de l'expérience du temps, ni même faire référence à celle-ci. Autrement dit, la langue Hopi emploie des mots qui décrivent le moment présent et ce qui se passe dans l'instant, sans jamais décrire directement le passé ou le futur. Cet usage du langage annonciateur d'un nouveau paradigme amène Worf à découvrir que nos paroles influencent nos connexions neuronales et à secouer les convictions scientifiques de son époque. Encore aujourd'hui, cette découverte demeure controversée autant que saluée. L'expérience autochtone de voir l'éclair dans le ciel illustre parfaitement la découverte de Worf. Quand les Hopis désignent l'éclair, leur langue le décrit comme un verbe en train de se dérouler, non comme un nom de chose. Au lieu d'observer la foudre en tant qu'objet naturel, ils disent l'équivalent de « sa foudre », qui indique que l'éclair est un état d'être. De même, concernant l'océan, au lieu de dire que telle vague est la vague ou une vague, les Hopis placent celle-ci dans un système tout compris, présent, vivant et immédiat. Leur pensée se reflète dans la langue qui décrit l'expérience et ils disent que la vague est en train de vaguer, tout comme la foudre est en train de foudrer. Les mots d'un univers vivant. Selon Worf, les structures verbales sont responsables de la façon harmonieuse dont les Hopis se décrivent, structurent leur vie et envisagent leur relation au cosmos. Lorsqu'ils songent à la totalité de la création, par exemple, ils voient un univers vivant, composé de connexions, émergé il y a longtemps d'un premier état d'harmonie. Au sein de ce système intégré, les Hopis envisagent la coopération entre les humains et au sein de la nature comme l'expression quotidienne d'une harmonie universelle qui s'étend à tout le cosmos. Cet esprit positif tranche abruptement avec le point de vue scientifique traditionnel qui décrit l'univers comme un système mort, jailli d'une série de lointains événements cosmiques aléatoires et incroyablement favorables. De ce point de vue, fondé sur une biologie fortuite, la science dominante attribue notre origine et la continuité de notre existence au triomphe de la concurrence et de ce que Charles Darwin, le naturaliste du XIXe siècle, a appelé la loi du plus fort. Une prémisse tout simplement fausse selon les meilleures connaissances scientifiques du XXIe siècle. De nouvelles découvertes en biologie et dans d'autres sciences de la vie révèle à présent que la règle fondamentale de la nature est la coopération et non la compétition. Les mots peuvent changer votre cerveau. Cette relation entre les mots et la vie a des implications profondes. Notre langage, les mots que nous choisissons pour nous décrire et partager nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos croyances, semblent former, en réalité, le cadre d'unité ou de séparation dont nous faisons l'expérience en considérant et résolvant les problèmes de la vie quotidienne. Ces relations avérées entre la parole et le cerveau ont ouvert la porte à une question encore plus profonde. Pouvons-nous, en choisissant des mots précis pour nous attaquer aux problèmes de nos vies, former nos cerveaux à découvrir de nouvelles façons de résoudre nos problèmes? Autrement dit, le choix conscient des mots et des structures verbales peut-il vraiment nous aider à penser et à sentir de manière différente en temps de crise, de traumatisme, de perte et de besoin? La réponse brève est oui. Une réponse plus longue fait l'objet de ce livre. Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, nos ancêtres entretenaient précisément cette conviction. Et devant l'adversité, au-delà du simple fait de reconnaître un lien puissant entre les mots et la biologie, ils ont appliqué leur pensée sous forme de codes verbaux. Dans leur récent livre « La clé de la communication, découvrez la puissance de l'empathie », le docteur Andrew Newberg et son co-auteur Mark Waldman confirment les idées de Worf et nous expliquent précisément le lien entre la parole et le cerveau. Ils décrivent ainsi cette relation. Un mot suffit pour influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. De plus, Newberg et Waldman révèlent une relation entre nos paroles et notre corps qui dépasse le niveau de nos gènes, jusqu'à avoir une incidence sur notre perception de la réalité en soi. Le phénomène commence dans le thalamus, une petite glande située près du centre du cerveau et qui relaye l'information sensorielle jusqu'aux régions cérébrales qui interprètent les signaux, puis agissent sur eux afin de former nos perceptions du monde. Les auteurs écrivent ceci. Avec le temps, la structure de votre thalamus changera aussi. En réaction à vos paroles, vos pensées et vos sentiments conscients, et nous croyons que ces changements thalamiques peuvent avoir un effet sur votre perception de la réalité. Les découvertes qu'ils signalent ont nourri le corpus de plus en plus considérable des preuves du pouvoir des mots et des façons utiles de les employer en période de difficulté. Les codes de sagesse. Les découvertes de Worf au XXe siècle et les récentes révélations scientifiques en neurosciences et en biologie nous confirment cette interprétation. Elles nous guident vers la même relation. Nos paroles influencent la chimie de nos corps, les neurones de nos cerveaux et la manière dont nos neurones s'organisent et s'enclenchent pour déterminer comment nous nous voyons et résolvons nos problèmes, et ce à quoi nous sommes capables de penser. Ces réflexions donnent un nouveau sens aux psalmodies, hymnes, prières et mantras utilisés dans les traditions du passé. Depuis des milliers d'années, des paroles précises et des expressions rituelles ont circulé de père en fils, de mère en fille, entre chamans et entre guérisseurs. Depuis l'époque des tout premiers écrits, ces messages furent préservés pour les générations futures dans des écritures sacrées et de mystérieux glyphes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous trouvons l'héritage des efforts de nos ancêtres dans certains des endroits les plus éloignés, isolés et secrets de la terre. Des monastères, des temples et des tombeaux qui montent la garde, dépôt silencieux de sagesse éternelle. Nous trouvons également cet héritage verbal consigné dans les documents sacrés des traditions spirituelles les plus vénérées. Si nos ancêtres ont préservé leurs secrets, c'était pour les gens de leur époque, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient qu'imaginer et qui vivraient dans l'avenir, pour nous. Ils avaient l'impression que les générations futures auraient besoin des mêmes ancrages émotionnels et de la même force psychologique dans les luttes guerrières, les extrêmes climatiques et le chaos social de leur époque, dont ils soupçonnaient le retour. Les anciens Védas en sanskrit, qui seraient apparus il y a plus de 7000 ans, jusqu'au Mahabharata, aux enseignements du Bouddha, aux textes perdus de la Bible judéo-chrétienne et aux mystères sacrés des traditions indigènes, la puissance des codes de sagesse nous est offerte aujourd'hui si nous comprenons ce que ces codes signifient et comment les appliquer à notre situation. Comment utiliser ce livre ? Aussi nombreuses et variées que les épreuves de la vie puissent paraître à première vue, un regard plus précis sur les difficultés que nous affrontons révèle une relation subtile entre notre expérience et nos perceptions. La relation se déroule ainsi. Les problèmes qui nous semblent souvent séparés constituent en fait différentes expressions de la même question sous-jacente. Souvent, par exemple, nous considérons la colère, la jalousie et la rigidité comme des difficultés séparées à affronter une à une. Mais chacune désigne finalement la même problématique fondamentale, une peur irrésolue. En guérissant ou en réglant notre crainte sous-jacente, nous éliminons le besoin de sécurité et les raisons pour lesquelles diverses expressions de la même peur peuvent se présenter dans notre vie. Nos ancêtres comprenaient ces relations. Ils comprenaient également la puissance de l'effet de cascade dans les relations. La guérison de nombreuses émotions par la résolution d'une même peur fondamentale. Ils partagent leurs découvertes sous la forme d'une sagesse profonde encodée dans des paroles sacrées qui ont survécu à l'épreuve du temps. Dans cet esprit, j'ai choisi un ensemble essentiel de codes de sagesse qui s'applique aux problèmes les plus fréquents de nos vies. Ces codes éternels sont destinés à nous procurer, le plus rapidement possible, la plus grande force et la plus profonde guérison. Chacune des 5 premières sections de ce livre est consacrée à un enjeu essentiel : la protection, la peur, la perte, la force et l'amour. J'y inclus 2 sections supplémentaires qui nous fortifient si on les comprend et on les utilise. La 6e partie présente les codes de pouvoir « je suis » et « je veux ». Et la 7e comporte 2 paraboles qui nous rappellent 2 vérités sur la guérison. Pour une consultation facile et cohérente, chaque section est organisée selon le format suivant. Le code de sagesse, le code de pouvoir ou la parabole, une citation directe d'un texte, d'une écriture sainte ou d'un vénérable enseignement de notre passé. 2. L'utilité du code de sagesse, l'expérience prévue que le code est censé traiter. 3. La source du code de sagesse, avec une référence de lecture directe ou une façon d'en élargir le contexte pour soi-même. 4. Un exposé du code de sagesse, son contenu, sa signification et la manière de l'appliquer dans nos vies. Même si ce livre peut se lire d'un bout à l'autre sous forme de récit continu, il est également conçu comme un manuel, soit une collection de sagesse que l'on garde à portée de main pour s'y référer rapidement et se procurer une force émotionnelle. Avec ces paroles anciennes de gens qui ont affronté en leur temps les mêmes défis que vous, la perte, la peur, les choix difficiles, des blessures profondes, le fil commun de l'expérience humaine éternelle vous relie à vos ancêtres. C'est alors que les siècles écoulés se dissolvent et que la maîtrise passée peut vous procurer une maîtrise au présent. Merci d'explorer les codes de sagesse dans ces pages. Greg Braden, Santa Fe, Nouveau-Mexique.